Charline, j'aimerais bien débriefer l'émission d'hier avec toi.
Ah, bah très bien, parce que tu sais, c'est important que tu te remettes en question.
Ah
aussi,
non,
hein.
Non, si c'est ça, non, c'est pas la peine.
Et comment ça?
Non, moi je pense que je suis au top. Non, c'est Alex.
Qu'est-ce qu'il a fait, Alex?
Bah, les invités l'aiment pas du tout, hein.
Tu crois?
Ah, bah oui, c'est sûr. Hier, on recevait Laurent Gamelon. Mm-hmm. Tiens, écoute ce qu'il dit sur Alex.
C'est pathétique, hein. Il est pathétique, ce garçon.
Bah voilà.
Bon, mais j'ai pas entendu ça.
Ah oui, mais attends, il a rajouté une couche après.
C'est pitoyable. Voilà. Quand j'ai appris qu'il avait demandé un CDI, il est à la rue, ce mec-là. Il sait plus quoi faire.
Voilà.
Alex a demandé un CDI.
Ah bah, apparemment, oui, oui.
Dans mon dos.
Oui.
Non, mais
oui.
Heureusement que t'es là, Guillaume, pour m'ouvrir les yeux. Hein,
non, mais tu l'avais repéré déjà hier, parce que quand Gamelon il enfonce Alex, tu cautionnes, écoute.
Il me dégoûte, ce mec.
C'est sûr.
Mais voilà.
Ah ouais, non, mais attends, parce que t'es sûr qu'il parlait d'Alex.
Ah, bah,
là.
C'est sûr et certain, évidemment.
Non,
oui,
attends,
bah, oui.
Je vais quand même réécouter le début du passage.
Non, c'est pas la peine.
Si, je vais réécouter. Si.
Mais votre petit camarade Franck de la Personne, il vous a pas appelé pour.
Ouais, mais non.
Mais
Franck de la Personne, j'ai joué avec. C'est pathétique.
Guillaume.
Non, je suis désolé, je dois aller en reportage là. Salut, Charline. Salut.
Guillaume, reviens immédiatement. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les fainéants de la Terre. Nous sommes entrés dans le nouveau monde et vous écoutez une start-up émission. Voici les trois informations qui sont en CDD ou en intérim jusqu'à 18h. En 2024, la France a vocation à accueillir tous les athlètes du monde. Au Conseil de Paris, même l'opposition a été obligée de féliciter Anne Hidalgo.
Et tu trouves pas qu'on a assez d'emmerdements comme ça, non?
La fainéantise est l'un des antidotes à nos maux contemporains, paraît-il. C'est un écrivain anglais qui le dit et rappelle que l'oisiveté a des vertus qui permettent notamment de résister au capitalisme.
De toute façon, j'ai tellement tout le temps la flemme de tout que même si je savais voler, je prendrais l'avion.
Une troupe de théâtre propose aux habitants de Seine-Saint-Denis de jouer dans leur salon en racontant des histoires écrites à partir de témoignages des habitants. L'équivalent dans les beaux quartiers, ce serait par exemple que Neuilly invite des rappeurs à domicile.
Cyrano, c'est un cadeau qui chasse comme un slammer level 99.
Et lui, c'est le bolos des belles brèves, c'est Alex Vizorek.
Exactement, bonjour Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui, autour de la table, une belle troupe de théâtre. À 17h20, l'homme qui voit la musique comme une science inexacte, puisque ce qui est vrai un jour pour un chanteur ne l'est plus le lendemain s'il a passé la nuit avec une chanteuse, c'est André Manoukian, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, je n'ai pas des goûts à géométrie variable. Voilà, ma grande passion, c'est le jazz. Je vais vous parler d'un formidable saxophoniste qui s'appelle Kamasi Washington, mais qui va plus loin que son art.
Très bien, 17h30 dans Télérama, il a déclaré que la 5ème République crée des Bob l'éponge qui se prennent pour Superman. Il est déconnecté du réel, quelle prétention, penser que le lecteur de Télérama connaît Bob l'éponge. Vous êtes idiot, Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour quand même Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je suis allé me cailler les miches hier soir au Trocadéro parce que ça y est, on a les JO, on a gagné.
On est fiers quand la France gagne.
Et surtout quand elle gagne contre personne, c'est ça qui est bien.
Et à 17h40, celle qui a fait de moi le Ayrton Senna de la conquête amoureuse. Bonjour Clara Dupont.
Bonsoir André.
De quoi allez-vous parler à ces gens?
De la colère en littérature.
De la colère.
Je me tourne vers celui qui va disrupter avec nous. Vous entrez à la Comédie Française en 71 et devenez sociétaire 6 ans plus tard. Au cinéma, vous avez tourné avec Nina Companese, Claude Lelouch, André Zulawski ou Francis Weber notamment. Au théâtre, on gagnerait du temps à citer les auteurs que vous n'avez pas interprétés. Car ceux que vous avez servis vont de Molière à Laurent Ruquier. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Francis Huster.
Oh là là.
C'est lui, j'ai reconnu.
Bah, bien sûr, c'est lui.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bonsoir Francis Huster.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Par Jupiter. Vous publiez N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien. C'est un livre qui sort aujourd'hui au Cherche Midi. Alex Vizorek s'est penché dessus, Clara Dupont-Mono aussi, mais je laisse la main à Alex Vizorek.
Clara parlera des colères, et moi je voulais lire les trois premières lignes. Je veux dire ma colère devant la brutalité de ce monde, ma hantise devant les tyrannies qui renaissent, et ma tristesse devant les beautés détruites. Mais je veux dire aussi ce qui persiste d'espoir, cette énergie en nous que je voudrais contribuer à libérer. Est-ce que c'est un livre politique presque, Francis Huster?
Oh, c'est un peu, je sais pas comment dire, un feel good book, c'est-à-dire c'est pour expliquer qu'on n'a pas le droit de rater sa vie, de ne jamais réaliser ses rêves, et je voudrais que les gens qui lisent ce livre aient le courage de revenir en eux-mêmes et de se libérer de tout.
Mais parce que vous trouvez que la politique ne donne pas ça, le côté feel good, parce que vous dites quand même ma tristesse devant les beautés détruites. Donc
bah
ça,
oui,
c'est
les beautés détruites, c'est-à-dire interroger les gens qui nous écoutent, est-ce que dans leur propre famille, leurs enfants ont vu cette année une pièce de Shakespeare, une pièce de Corneille, une pièce de Racine, une pièce de Molière, est-ce que les enfants dans les écoles, ou de Laurent Ruquier, absolument. Là, une comédie, quelque chose qui vous ramène à cet échange entre le public et les acteurs de théâtre. On a des trésors absolument sublimes. Alors, c'est très bien de se divertir à la télévision, les téléréalités, les sublimes, vraiment, séries du monde entier qui bouleversent les gens, qui les sortent de leur cauchemar quotidien pour certains, mais avoir laissé tomber, comme depuis des années, presque 10 ans, un pan entier on entend le mot culture, mais c'est pas seulement le mot culture. Ce qu'il faut cultiver, c'est pas seulement les grandes œuvres, les grands artistes, la musique, le théâtre, le cinéma. Il faut cultiver soi-même. Et depuis 10 ans, c'est vrai que les religions, quelles qu'elles soient, qui nous donnent une morale, une philosophie de vie, c'est, disons, notre bras gauche et le bras droit, c'est-à-dire celui qui nous conduit, qui nous mène à prendre nous-mêmes des décisions. Ce bras droit, il a été trahi depuis 10 ans. Et moi, je voudrais que les jeunes de demain reconstruisent ce pont vers la culture.
Vous croyez qu'ils vont moins au spectacle vivant qu'avant ?
Non, ils vont dans... Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la grande musique. C'est-à-dire que tout d'un coup, au début du XXe siècle, par rapport aux grandes œuvres d'opéra du monde entier, une élite a commencé à kidnapper ces œuvres. Il fallait payer cher, il fallait aller dans des endroits d'élite, justement. Et tout d'un coup, il y a Caruso lui-même, le plus grand chanteur, qui décide tout seul de chanter. Et on a dérivé... Et on a dérivé finalement vers cette éclosion extraordinaire de la poésie chantée, des traînées, des brailles, des... Ok, sublime. Aujourd'hui, si vous me demandez à un jeune qu'est-ce que c'est que le théâtre, pour eux, ce sont les one-man shows.
Justement,
quelle saloperie ça.
Est-ce que ce serait pas la responsabilité implicite de ce que les politiques ont fait de l'école ?
Mais bien sûr. Mais totalement. C'est-à-dire que les professeurs eux-mêmes qui voulaient lutter contre ça et continuer à amener les élèves à assister au théâtre, alors qu'il y avait eu le combat de Barreau, de Villard, de Jouvet et des autres pour rendre justement ce théâtre populaire, on les a trahis.
Mais pourtant, quand on voit certains profs qui réintroduisent Shakespeare, on en fait des films dans les banlieues et que les gosses finalement s'approprient ces textes et arrivent à les transposer, on se dit que le pont, il est facile.
Ce sont des initiatives isolées.
Mais
ils
ne
sont pas du tout soutenus par l'instance qui est censée les représenter.
Et je trouve qu'il y a en plus une génération d'auteurs, de comédiens, de metteurs en scène qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui sont sublimes, qui n'ont rien à envier au monde entier. Et je supplie, et c'est tout simplement le sens de ce livre, je supplie chacun de se dire que tout doit partir de lui-même. Exiger de voir des pièces de théâtre, exiger d'aller vers les grands textes. Imaginez par exemple que tous les acteurs français qui ont là entre 20 ans et 60 ans, tout le monde meurt, tout le monde va au ciel, et la porte elle est ouverte par Racine, par Corneille, par Molière, par Beaumarchais, par Marivaux, par Hugo.
Mais par Laurent Ruquier.
Est-ce qu'il serait
pas...
Il n'est pas mort encore. Est-ce qu'il n'aurait pas honte ? Quoi ? Il n'aurait pas honte. Pourquoi ? Tout simplement parce que on ne peut plus, sauf quand on fait partie de cette troupe sublime et prestigieuse, et là je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'ils se battent, de la Comédie française, où sont les troupes de Villard, de Barreau, de Jouvet, des autres, de Vitesse.
Justement, vous, pourquoi écrire vos colères et pas monter ces auteurs-là et les donner...
Personnellement, je fais que ça. Hein.
Non, je sais que vous montez
jouer avec des chefs.
Merci Alex Bizarrec.
Je sais bien, mais je me suis dit pourquoi vous, à ce moment-là, vous passez par la littérature premier degré, parce que vous, c'est votre colère au premier degré, et pas par les grands auteurs pour dire ses colères.
Paradoxalement, je pense que ce livre, qui n'est pas écrit justement par un écrivain, mais par quelqu'un du métier, comme lui aurait pu l'écrire sur la musique, je pense que ce livre, ce sont les gens qui l'écrivent en le lisant. C'est-à-dire que chacun se dit, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, mais au moins, c'est vrai que moi aussi j'ai quelque chose à dire. Alors que quand t'es dans une salle de spectacle, tu vois tellement le sublime, que ce soit les comédies musicales, que ce soit les films, les pièces, que tu penses pas que toi-même tu peux réécrire du Molière, du Corneille, mais ta vie tu peux la réécrire.
Il y a des pièces qui nous font dire, tiens, moi je pourrais peut-être la faire, quand même.
Oui, probablement.
Les mauvaises pièces sont importantes aussi
pour
ça.
Non, mais probablement, mais tu sais, par exemple, prenons l'exemple de Coluche, qui était un peu le Molière de sa génération, parce que Molière n'était pas du tout un type classique, il se prenait pas pour un auteur dramatique, il prenait comme Audiard le dialogue de la vie, et c'est pour ça que son personnage sont pas des héros ou des dieux, ce sont les hommes de la vie, les femmes de la vie, et il a eu toutes les audaces. Je pense que Coluche, comme Molière, c'est lui finalement qui a osé tendre la main vers vers les autres.
Francis Huster a beaucoup de choses à dire et c'est écrit dans « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien » qui sort aujourd'hui, publié au Cherche Midi. Et on peut aussi vous voir, bien sûr, sur les planches, toujours. Vous êtes en tournée avec « À droite, à gauche » de Laurent Ruquier, avec Régis Laspalès et Jean-François Balmer. Vous serez notamment le 4 novembre à Nantes, le 7 à Dijon, le 25 à Toulon, le 2 décembre à Rennes, le 15 à Saint-Étienne, le 25 janvier à Lille. Et pour l'instant, vous êtes avec nous à Paris, où il est 17h18. Francis Huster est avec nous. On va parler de plein de choses et on va revenir au livre avec Clara Dupont-Moneau. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Apprécié par Francis Huster qui est avec nous. Alors je ne sais pas si on est écouté en Israël, mais vous y serez. Vous allez jouer, en tout cas le 22 octobre, vous serez à Tel Aviv. Vous jouez Inconnu à cette adresse avec Thierry Lhermitte.
Ouais,
c'est dans
chance.
Le cadre du Festival du Théâtre Français en Israël. Et le 23 octobre, vous jouerez à Jérusalem.
Oui.
Waouh.
Oui, ça c'est la grande réussite de Steve Suissa qui s'est battu pour, pendant des années pour obtenir enfin ce que Villars faisait en Avignon. J'évoquais jouer au Barreau ou Vitesse, c'est-à-dire un festival de théâtre français en Israël. Pourquoi ? Parce que c'est justement le triangle des trois communautés, la religion juive, la religion musulmane, la religion chrétienne, et si justement par la culture, on peut les réunir et rayonner après dans le monde entier, ça sera vraiment plus qu'une mission, quoi, un devoir. Et Steve a réuni Pierre Arditi, Daniel Russo dans le chef-d'œuvre de Grimbert, L'être ou pas, Claire-Marie Le Guay, on peut interpréter tous les deux, Horowitz, le pianiste du siècle, et puis Inconnu à cette adresse, chef-d'œuvre de Cressman Taylor, qui va se jouer d'ailleurs dans le lieu même où Eichmann a eu son procès, et puis François-Xavier de Maison qui va emporter le feu d'artifice en nous faisant rire.
Effectivement.
Et
pour entourer Francis Huster.
On a évidemment André Manoukian, on a Guillaume Meurice et Clara Dupont-Moneau pour ordre d'apparition.
Un peu d'informations.
L'information toujours
là.
En tartons, les pompeux, corniche show.
Le journal de presque 17h17.
Globe, 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 globe.
Et on commence par les titres.
Paris organisera donc les Jeux Olympiques 2024.
Génial. Bon, ben, je propose que la flamme parte dès maintenant, comme ça elle aura la chance d'arriver à l'heure par les bouchons parisiens.
La France Insoumise veut créer sa propre chaîne de télévision.
Une chaîne dont on est sûr qui va rafler les premières places des audiences à 600 000 téléspectateurs près.
Faire des brèves.
Évidemment, ça fait la grosse audience. C'est les brèves.
L'organisation des Jeux Olympiques en 2024 est donc attribuée à
c'est pas
à
vrai,
Paris.
À Paris, oh là là, suspense, ah bon, qui fait, n'était là, pas sûr. Sans rappeler les meilleurs épisodes de Louis la Brocante. Paris a remporté l'organisation de la hausse d'impôts 2025, des Jeux Olympiques 2024.
Voilà, effectivement, l'organisation des JO devrait coûter à peu près 7 milliards d'euros, un coût qui sera forcément à la charge du contribuable français.
Mais rappelons la devise du baron de Macron, l'important c'est de participer au financement des JO.
Revenons un instant sur la catastrophe Irma.
Oui, avec une chanson de soutien.
Oula, Francis Lalanne.
Non, t'es peut-être sur le coup, mais c'est Francky Vincent, le créateur de Tu veux mon zizi, qui s'est
lancé. On n'est pas à la polémique, mais à aider ces îles magnifiques. Politique, action, réaction, la population, désolation. Désarroi, peur des habitants.
Voilà, c'est pas mal, mais on reconnaît pas la patte habituelle. Ouais, alors vrai. Je me suis permis un petit remix pour voilà que ce soit plus tranquille.
D'où vient ce foutu ouragan?
Tu veux mon zizi?
Oui, oui.
Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Voilà, c'est plus dans le style habituel de l'artiste.
Politique, dans une interview à La Provence, Jean-Luc Mélenchon a imputé sa défaite à Benoît Hamon en déclarant, je cite, « S'il avait retiré sa candidature, il serait aujourd'hui Premier ministre et moi président. »
Oui, si Nadal, Federer, Murray, Djokovic et une vingtaine d'autres joueurs déclarent forfait, son gars remportera Roland-Garros en 2018.
Oui, c'est ça le problème, on lui avait mis des adversaires à la présidentielle.
Et oui, toutes les compétitions ne peuvent pas se passer comme l'attribution de la ville olympique.
Donc gouvernement à présent.
Oui, Édouard Philippe était en déplacement à Pau, l'occasion pour Quotidien d'interviewer François Bayrou.
Il se trouve que quand le président de la République m'a dit qu'il songeait à nommer Christian Philippe, je l'ai soutenu. Édouard Philippe.
Voilà, tout s'explique.
Effectivement, à droite. Laurent Wauquiez est rattrapé par une affaire de retraite. Pour 2 mois de travail au Conseil d'État, il aurait cumulé 13 ans de droit à la retraite.
Saloperie du cancer de l'assistana. Et bon, cela étant, 2 mois de travail pour 13 ans de revenus, c'est le même ratio qu'André Manoukian.
Passons à François Fillon, car on a des nouvelles.
Il a rendu l'argent?
Ah non, ça quand même pas. Il a dîné avec des élus de la Sarthe et l'un d'entre eux a tenu à faire savoir que l'ancien candidat était, je cite, rayonnant.
François Fillon est rayonnant. C'est le plus bel oxymore de la rentrée.
Ou ce qu'on appelle un gros pipeau.
Voilà.
Passons à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Pour lutter contre les pigeons, elle a recruté des rapaces.
Des rapaces. On n'avait plus vu de rapaces dans une mairie parisienne depuis les époux Tibéri.
Et des brèves?
Oui, d'après une étude belge, une femme sur 3 envisage une rupture à cause de l'absence d'orgasme.
Ah, et les deux autres?
Les deux autres, elles peuvent m'appeler et compter sur ma discrétion.
La dernière,
un Écossais jugé pour avoir diffusé une vidéo de son chien faisant le salut nazi.
Mais comment on peut distinguer un chien qui donne la papate d'un chien qui fait un salut
le
nazi?
Le truc, c'est que son maître lui a appris à lever la patte uniquement quand il prononçait Sieg Heil. Alors, il y a une explication. C'est qu'en fait, il voulait irriter sa petite amie qui adore trop son chien. Il dit alors, j'ai pensé à transformer la chose la moins mignonne que je puisse imaginer et donc en faire un nazi. Voilà.
C'était quelle race?
Je vous rassure, c'était pas un berger allemand.
D'accord. Il est 17h26, nous sommes en compagnie.
Les gens sont merveilleux.
De Francis Huster, qui publie N'abandonner jamais, ne renoncer à rien. Livre qui sort aujourd'hui au Cherche Midi. Clara Dupont-Monod y reviendra tout à l'heure avec les colères en littérature. Et voici le premier sujet avec vous, Francis Huster, car ça y est, nous avons les jeux. Et ça, c'est une super nouvelle parce qu'on n'avait plus de pain. Allez, on va pas bouder notre plaisir. On a gagné. Il n'y avait plus aucune ville concurrente, mais on a gagné. Et on peut donc le crier très fort.
Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion,
c'est bon, merci.
Toujours nous rassemble,
voici la une du...
les bleus, on est tous avec vous.
Merci Guillaume.
C'est ça le vrai truc de Guillaume en fait, c'est...
Il est crooner,
c'est le premier degré.
Francis Huster, voici la une du Parisien aujourd'hui en France, le Parisien qui fait une descente de matrice. Hein.
Oh là là, oui.
Euphorisant, est-il écrit en une. Vous êtes vous-même euphorisé à l'idée de cette nouvelle, Francis Huster?
Ah, moi je suis comme Dr. Chicken et Mr. Hyde, ça veut dire, il y a un côté qui est mais fou de joie.
Ah,
Ah oui. Ça, bah oui, c'est totalement légitime que la France retrouve les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques sont partis de la France. C'était même la langue officielle des Jeux Olympiques, le français. C'est sublime. Toute une génération de jeunes maintenant va se battre pour être là. Je pense à ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 18 ans, qui rêveront maintenant dans leur propre pays de participer, de gagner. Non, c'est magnifique. Le monde entier aura le regard vers nous. Alors ça, c'est le côté Dr. Jekyll. Et puis l'autre côté, Mr. Hyde.
C'est le côté contribuable.
Non, mais c'est que, bien évidemment, maintenant, il va falloir mettre à plat, après cette victoire extraordinaire, ce qui va se passer d'ici là. Ça veut dire, c'est ce qui est en train de se passer dans la ville de Paris. Personne, tout le monde est au courant.
Même pendant, Francis Huster, du beach volley sur le Champ de Mars.
Ça a de la gueule, ça a de la gueule.
C'est rigolo.
Non?
J'étais pas au courant, mais là où je suis au courant, c'est sur ce qui est en train de se passer dans cette capitale. C'est-à-dire que vraiment, ça devient impossible. Il y a des gens qui perdent leur boulot, qui peuvent plus travailler, des entreprises qui sont ruinées parce que au lieu de 3 quarts d'heure de trajet, c'est 2 heures de trajet. Des gens qui n'osent même plus prendre le taxi parce qu'au lieu de 12 euros ou 15 euros, c'est 42 euros. Ça dure des plombes. Des gens qui, en plus, dans les transports publics, et je peux en parler puisque je prends moi-même le bus, le métro continuellement pour aller plus vite parce que tu peux même plus avoir le temps de te garer et tout. Non, il y a un vrai problème.
Parce que le but, c'était que vous preniez les transports en commun.
Justement. Oui, sauf que ces transports en commun, le problème, c'est que quand tu te trouves dans les bus, par exemple, et le chauffeur de bus s'en rend pas compte, lui, il essaye d'aller à toute blinde au plus possible, mais t'es complètement, tu vas d'un côté à l'autre dans le bus, tu t'assois ou tu te tiens à quelque chose, et quand le bus s'arrête ou enfin tu peux descendre, tout le monde monte à toute vitesse, et toi, t'as même pas le temps de descendre parce que le bus veut repartir. Non, ça a l'air un peu un gag. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai problème, et je pense que la loyauté, ce sera de faire enfin une réunion avec les responsables de la mairie, donc Madame Hidalgo, qui puisse répondre officiellement pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures à ceux qui sont responsables et qui ont vraiment dans Paris un mal fou en ce moment. Par exemple, un dernier point aussi, quand tu as plus de 70 ans, que pendant des années tu as cotisé, tu as vécu dans cette ville et que tu n'as même pas les transports gratuits, ça paraît insensé.
Mais oui, la gratuité des transports, on est d'accord.
D'autres dans grandes villes l'ont, cette gratuité.
Il y a une étude qui est en train de se faire.
J'explique aux auditeurs, j'essaye de gérer plus ou moins le temps de cette émission.
Voilà,
je fais des congés.
On en a parlé.
Je fais des moulinets. Huster, Fabienne Sintès, vas-y, prends ton temps, ma vieille.
Je fais des moulinets avec les bras, je fais la circulation du temps.
Vive les jeux.
Voilà, vous avez très bien répondu à cette question, Francis Huster, donc je pense qu'on peut passer à André Manoukian, parce que là, on a bien.
Pour la chronique.
Washington.
Kamasi, Washington. Ça commence comme une musique de croisière et pourtant ça ne sonne pas complètement paquebot. Bien sûr, c'est cool, c'est sucré même, des tapis de cordes, des nappes d'orgue, un vamp, ça veut dire une rythmique de piano ostinato qui déroule avec une clave presque brésilienne. Il y a du
une clave.
Alors une clave, c'est 2 morceaux de bois qui donnent la pulsation.
Ah,
et quand on joue la clave, ça veut dire qu'on se fait le tac tac tac.
Voilà, c'est ça.
Il y a du Herbie Hancock des années 70 quand les groupes funk jouaient l'équivalent de nos slow dans leur boom à eux qui se passait dans des juke joints. Précisément là où est née cette musique. Les juke joints, c'était ces bars misérables réservés aux noirs en marge des plantations du sud des États-Unis où on buvait de l'alcool de contrebande en écoutant la meilleure musique du monde et en dansant toute la nuit. D'où le mot funk. Mélange de skunk, putois et de fuck. Je sais plus ce que ça veut dire. Là. L'origine du mot est incertaine, mais comme le mot jazz, elle est sûrement d'origine séminale. Funk signifie probablement mauvaise odeur, en tout cas odeur de transpiration, de sexe. Certains ont vu un lien entre les mots lou funky d'un dialecte d'Afrique centrale signifiant forte transpiration. C'est en tout cas la version du professeur Faris Thompson, spécialiste en art africain et afro-américaine à l'université de Yale. Tout ça pour dire que le funk, ça transpire. Et ça transpire du cul, et c'est ça qui est bon. Le funk, c'est une vibration qui renvoie fièrement aux origines africaines. Kamasi Washington est aujourd'hui l'enfant de sa génération qui va puiser non seulement dans les origines, mais qui réussit à nous faire visiter toute l'histoire de la soul des années 50 à nos jours. Ce saxophoniste érudit est né en 81 à Inglewood, en plein ghetto de South Central, banlieue de Los Angeles, et il écrivit lui-même son destin. Il aurait dû finir dans les gangs de son quartier, mais 2 choses lui ont sauvé la vie, la lecture. l'autobiographie de Malcolm X, le leader des Black Panthers dans les années 60, et le jazz. Dans, donc la lecture, c'est Francis Huster, le jazz, c'est moi. Dans les années qui l'ont vu grandir, cher Francis, oui, la culture afro-américaine, c'était le rap et les gangs qui ne véhiculaient que des choses négatives. À côté, dit-il, le jazz qui est entré dans ma vie au même moment m'a paru tout simplement plus intelligent. Oui, Guillaume Meurice. Est-ce l'influence de ses parents enseignants ? Toujours est-il qu'il intègre toutes les formations musicales. Encore étudiant, il devient le sax de scène de Lauryn Hill, qui lui montre la voie de la liberté. De Raphaël Sadiq, le pape du funk, qui lui apprend à désapprendre. Et surtout Snoop Dogg, qui va lui apprendre à percevoir la musique, à faire la différence entre un jeu cool ou pas, à insister sur la manière de jouer, plutôt que les notes choisies. Le son, l'attitude, quand on est un jeune étudiant et qu'on touche du doigt ces notions, eh ben, on peut normalement les mettre toute une vie à absorber. C'est capital. Il va tout rafler. La dextérité de la jeunesse et la maturité des vieux briscards. Alors Kamasi Washington, dont la musique est le jazz, se fait un cache-colle de jouer sur des musiques bien moins compliquées, de Snoop Dogg à Kendrick Lamar. Comme quoi, comme moi, quand je suis sorti de la Berklee School of Music de Boston et que je me suis retrouvé clavier chez Michel Thor. Enfin, on a les références que l'on peut. C'est une vraie histoire. Je vais raconter, je crois, un jour. Mais voilà, aux États-Unis, 50 ans après la lutte pour les droits civiques, tout reste à faire. Dans une Amérique divisée comme jamais, qui vécut l'élection d'un président noir comme un prétexte pour lâcher tout le racisme refoulé par une bien-pensance sur laquelle le nouvel élu assoit carrément son gros cul. Kamasi Washington reprend le flambeau de ses maîtres musiciens. C'est géants du saxophone qui l'ont précédé, Coltrane, Pharoah Sanders, Archie Shepp, ses arrangeurs de génie, Quincy Jones, ses chanteurs, Marvin Gaye avec Brother to Brother. L'heure est à l'épique, c'est l'épopée glorieuse et rêvée du peuple noir qui souffle à travers l'anche magique du saxophoniste géant Kamasi Washington. Who were we before when we lived 10,000 lives? I would like to know all the secrets of our tribes. Can you hear me? Mountains of gold, mountains of gold, diamonds and pearls, diamonds and pearls. Round we go, round we go. I guess it's all that we know. I guess it's all that we know. Hours and bones, hours and bones. Gunshots in the snow, gunshots in the snow. History class, nah, we ain't learn from the past. Build it up, burn it down. Leave it as ass. Build it up, burn it down. Build it up, burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clap, scrap, meeting a match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen, seen bridges get burned. And then I seen lessons get learned after that. On a smaller level, out in Parkchester and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't as big as the bridge. But goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve. Chasing this global pain that disturbs. We'll have faith. What comes around goes around someday. Mountains of gold. Mountains of Gold, Kamasi Washington. Merci André Manoukian.
Il y avait un solo de batterie qui était exceptionnel. Hein.
C'est ça. Bon, il jouait pas de sax sur ce morceau-là, mais c'est aussi un producteur de grand talent et ils sont tous autour de lui. Et voilà, il y a une famille qui est en train de se reconstituer en ce moment.
qui collabore notamment avec IBI.
Mais oui,
elle nous avait présenté
la dernière. Voilà, les frangines qui chantaient là avec son fa, avec plein de gens.
Merci André Manoukian. Vous êtes sur France Inter par Jupiter et Francis Huster est notre invité. Vous êtes toujours en tournée avec À droite, à gauche de Laurent Ruquier avec Régis Laspalès. Vous passez par Nantes, Dijon et Toulon en novembre. Et en décembre, vous serez à Rennes, Saint-Étienne et le 25 janvier. Pas loin de chez nous, Alex, à Lille.
C'est pas vrai.
Dans le Nord. Francis Huster qui publie N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien. Au Cherche Midi, Clara Dupont-Mono va y revenir. On a entendu André Manoukian. Et à 17h37, il nous reste Guillaume Meurice.
Oui.
17h37, vous savez, à Paris et à l'Abaca. C'est tout près de Cognac, où vous jouez samedi.
C'est vrai.
Et je le signale parce qu'il arrive quelque chose d'exceptionnel, mesdames
oui, c'est
et messieurs.
Vrai, c'est vrai.
Il reste des places.
C'est pas vrai.
Et
oui,
ça,
oui,
ça
oui,
n'arrive
oui,
jamais
oui.
Guillaume Meurice.
Enfin, c'est ce qu'il dit.
L'Abaca, près de Cognac. Guillaume.
Eh bien, écoutez, ça y est, ça y est, ça y est, c'est fait. On a les Jeux Olympiques. Ah. On va accueillir plein d'étrangers sur le sol français. Calme-toi, Laurent Wauquiez. Ceux-là, c'est bon. Hein, ils sont sponsorisés par Coca-Cola. Alors, les JO, c'est quoi? Bon, bah, c'est simple. Hein. Alors, par exemple, partout dans le monde, t'as des gars qui balancent des trucs, genre des javelots, le plus loin possible. Mais chacun dans leur coin. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, bah, venez. Vous allez tous lancer votre bout de truc, votre javelot au même endroit, on va mesurer, et puis celui qui lance le plus loin, eh ben, il écoutera l'hymne militaire de son pays sur un escalier. Vous voyez? Ah, c'est simple, parce que quand même, faut bien reconnaître qu'entre deux guerres mondiales, l'être humain sur la planète, il se fait relativement chier, alors il invente des trucs comme ça, formidables. Et en 2024, eh ben, ils viendront lancer leur truc chez nous.
Ça, c'est chouette.
Ah, et ça, c'est bien parce que du coup, on est content. Et moi, j'étais hier à la cérémonie organisée pour l'occasion au Trocadéro sous la flotte. Les gens étaient heureux.
Ah, c'est formidable, ça y est, c'est fait. De toute façon, depuis deux ans, il n'y a pas de suspense. Paris devait avoir les Jeux Olympiques. Moi, je suis. Ça y est, c'est fait. Voilà, c'est.
Alors, il n'y a pas de suspense. Formidable. Il pleut. Il n'y a rien à voir et vous êtes venu quand même.
Il oh bah, y a quand même les anneaux olympiques qui vont être dévoilés dans un instant.
Ah oui, évidemment, je suis con. Il y avait un drap trempé sur cinq anneaux en plastoc. Deux mecs qui tirent sur une ficelle et emballés, c'est pesé. Putain, c'était magnifique. Moi, j'avais des frissons, hein, je vous le dis, mais essentiellement parce que j'étais en train de choper la crève hein, quand même. Mais bon, je suis resté avec ce jeune enthousiaste.
Les Jeux Olympiques, c'est un moment de fête qui fédère, qui rassemble tout le monde et c'est un moment de bonheur.
Moi, je croyais qu'on n'avait plus d'argent pour financer tout ça.
Mais si, on trouvera toujours de l'argent.
Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. Pour loger des gens et éviter qu'ils crèvent dans la rue toute l'année, il n'y a pas d'argent. Mais pour savoir si c'est l'ouzbek ou le chinois qui est le meilleur au ping-pong, là, c'est bon. On a 6 milliards qui viennent d'être trouvés. Ça va même être certainement un petit peu plus, puis rapporter encore moins. Mais c'est pour la joie du sport. Du sport comment?
Sport pour tous, sport populaire.
Ça veut dire que les places vont être pas chères?
Non, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis qu'on doit développer le sport dans nos écoles.
Et sur le prix d'accès au.
Le prix d'accès, on verra. C'est peut-être un problème.
Ah oui, c'est peut-être pas si populaire que ça alors.
C'est peut-être un problème.
Oui, 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 le problème, c'est que si tu veux voir certaines épreuves, ça va te coûter un bras, mon pote. Et puis après, tu pourras participer du coup au jeu en e-sport. Il faut. Non, mais j'ai besoin de positiver. Excusez-moi, parce que j'étais toujours sous la flotte. Hein. Moi, je vous rappelle quand même hier soir. Allez, on y croit, ça va être top, ça va être top.
Ça va être top parce qu'on va avoir des athlètes valides et non valides sur les pistes.
Mais ça va nous ramener pas mal de drogués, non, les athlètes quand même.
Pourquoi les drogués?
Non.
Je ne connais pas les athlètes qui se droguent personnellement.
Ils font pas des piqûres, des choses comme ça?
Je ne veux pas. Je ne sais pas du tout.
Ah, parce qu'il m'avait semblé, moi, quand même, qu'ils avaient tous dans les veines l'équivalent d'un mois de tournée des Rolling Stones. Mais bon, attention, je peux me tromper. Hein. Peut-être qu'ils courent à la vitesse d'une Audi A3 au démarrage juste en buvant de la Volvic. On ne sait pas. De toute façon,
c'est négatif, hein.
Non. J'étais sous la flamme, je vous rappelle, mon petit pote. D'accord. De toute façon, nous les Français, comment dire?
Oui, souvent on arrive quatrième, mais là, j'espère qu'on aura des médailles.
Est-ce qu'on pourrait pas donner une médaille au quatrième, comme ça il arrêterait de chialer?
Non, c'est vrai.
Alors,
non,
donnons une médaille au quatrième.
Ah ben, ça, faudra voir avec l'organisation des JO.
Bah oui, ça serait urgent, ça serait urgent. Alors évidemment, on serait foutu d'arriver cinquième. Après tout, on a qu'à filer une médaille à tout le monde, et puis c'est marre. Hein. Francis Huster, ici présent, il a bien la Légion d'honneur, comme Daniela Lombroso et Jacques Servier. Donc les médailles, c'est pas ça qui manque en France, on y connaît. Bon. Alors d'ailleurs, je vais vous dire, le problème du français, c'est pas tellement qu'il gagne pas, c'est que même quand il gagne, comme hier soir, il est pas content. Message du français.
Messieurs les membres du CIO, vous êtes priés de respecter l'heure que vous avez donnée, à savoir 20h05. Il est 19h48 quand vous avez proclamé résultat. Ça fait 17 minutes avant l'heure dite et c'est pas correct.
Ah, ça, vous êtes pas content?
Non, parce que l'heure, c'est l'heure. Donc...
Mais alors, quand même, c'est la fête ou
oui,
vous êtes
content?
Oui,
mais quand même, on reste de membres parce qu'on aurait aimé. que le CIO ne piétine pas sur l'horaire qui avait été calé pour autant.
Ah bah le CIO, merde, l'horaire alors. On est français, on n'a pas l'habitude que les choses arrivent en avance, putain. Vous êtes con ou quoi? Attendez de venir en France, de prendre le TER, vous allez être surpris les mecs. Bon, alors quand même, ce qui nous reste en tant que français, c'est le fair play. Là on est bon. Un petit message pour nos amis américains qui sont comment?
Un petit peu ingrat, parce que messieurs les Américains, vous avez eu les Jeux à deux reprises, en 84 à Los Angeles et en 96 à Atlanta. Vous vouliez les Jeux de 2016 qui étaient à Rio, 2009, après...
Ah, vous leur en voulez, aux Américains?
D'après session, oui, parce que les Américains, ils sont un peu gourmands.
Mais vous êtes en colère, on a l'impression que vous êtes en colère.
En colère parce que j'estime que la présentation est un peu sommaire. Bon, il pleut.
Oui, bon, voilà, alors, attendez, parce qu'on peut pas... Oui, c'est pas tout de leur faute non plus. Alors, effectivement, la présentation est nulle, mais t'étais pas obligé de venir, excuse-moi. Hein, alors que moi, oui, j'avais un truc à faire pour aujourd'hui. Et puis en 2024, t'es pas obligé non plus de regarder des panneaux publicitaires qui transpirent. Tu peux aussi prendre un bon bouquin. Je t'en conseille un livre d'Albert Jacquard aux éditions Stock qui s'appelle « Halte au jeu ».
Merci Guillaume Meurice. Ou aller au théâtre.
Ou aller au théâtre.
Ou le livre de Francis Huster, « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, sauf au JO », qui sort au Cherche Midi. Francis Huster est avec nous jusqu'à 18h. On va aborder ce deuxième sujet avant d'entendre Clara Dupont-Monod sur la colère en littérature. Alors, « L'art d'être libre dans un monde absurde », c'est un best-seller de l'écrivain anglais Tom Hodgkinson. Il est enfin traduit en français et c'est là qu'on découvre qu'il fait l'éloge de quoi? De la fainéantise. Elle est propice à la réflexion et elle peut même être un acte de résistance face à l'emprise du capitalisme sur nos existences, dit l'auteur. Alors voici un conseil.
À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps.
Merci à Coluche. C'est un article paru dans l'Obs et intitulé « Soyons fainéants ». Cela vient de cet ouvrage de Tom Hodgkinson qui vient d'être traduit en français « L'art d'être libre dans un monde absurde ». Là, on a clairement affaire à un activiste du farniente. Ça aurait pu être un thème de votre livre aussi, Francis Huster, dans cette forme de résistance et de ne pas renoncer. On en est là pour avoir droit à un peu de fainéantise. Il faut désormais batailler, lutter, résister. C'est un thème qui vous inspire un peu, ça ?
Bien sûr, je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que la fainéantise, c'est de rester en roue libre et de se trouver toutes les bonnes justifications de ne rien foutre. Pour moi, c'est même indécent, la fainéantise. D'abord, fainéant, ça veut dire faire néant. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, feignant. Feignant, c'est faire semblant, feindre de ne rien faire. Et je trouve que la fainéantise, c'est vraiment un mot, mais que je déteste. Quoi.
Est-ce que c'est vraiment la fainéantise de rien faire qui met en avant, ou c'est le côté prendre le temps des choses?
C'est aussi prendre le temps des choses, c'est l'oisiveté.
Et donc de lire tout Tchekhov, c'est pas. C'est, oui, il c'est faut qu'on puisse se le permettre.
Alors
aussi.
À ce moment-là, ça devient la plus grande qualité du monde.
Et l'article rappelle d'ailleurs que au Moyen-Âge, le temps était considéré comme un don de Dieu, donc quelque chose d'extrêmement précieux. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de parier sur le temps, ni non plus de faire des prêts avec intérêt. C'était interdit, c'était réprouvé par l'Église. Mmh. Le temps était considéré comme une chance miraculeuse donnée par Dieu. Saint François d'Assise, il n'a jamais converti les foules au pas de course. Hein. Il marchait lentement. Les grandes choses se sont faites.
Il était en marche quand même.
Il était en marche, mais avec lenteur.
Oui, justement,
en fait, c'est l'éloge de la lenteur aussi qui fait Tom Hodgkinson.
Oui, mais cela arrive au moment, évidemment, où Emmanuel Macron traite, semble-t-il, les Français de fainéants, alors qu'ils vantent la Startup Nation. Mais la Startup Nation, c'est faire des applications pour qu'on vous livre vos repas, pour qu'un chauffeur passe vous chercher. Est-ce que c'est pas aussi une forme de fainéantise?
C'est de la paresse. C'est pas pareil.
Oh, la paresse, c'est encore pire que la fainéantise. Ah. Ça veut dire que la paresse, on est capable de faire quelque chose et on recule tout le temps le moment de faire cette chose. Ah, ça, c'est encore
pire. Mais est-ce que la contemplation, par exemple, pour vous, c'est de la paresse?
Ah non, pas du tout. La contemplation, au contraire, c'est une qualité extraordinaire de contempler les choses. C'est quand on ne sait plus regarder les choses qu'on perd sa vie.
Vous qui mettez Molière en parallèle de beaucoup de choses, il a souvent pris les défauts de son temps, enfin le misanthrope, le bourgeois gentilhomme, c'est même encore adaptable à aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, le monde qui nous entoure l'inspirerait et quelles caractéristiques?
Ah, je pense qu'il écrirait une pièce sur les médias. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de pont entre ce qui se passe disponible. Vraiment dans la réalité, oui, et ce qu'on veut nous faire passer pour de la réalité. C'est comme un masque qui est complètement, qui recouvre le monde. Et vraiment, je suis persuadé qu'il aurait fait une pièce sur ce monde-là.
Un reporter imaginaire.
Oui, oui, non, vraiment.
Ceci dit, Tartuffe, c'est un peu Jean-Michel Apathy, non? Conseil.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le cerveau. On est tellement loin dans cet univers du ciel comme dans l'univers de notre cerveau. Moi, ça me passionne, c'est de comprendre pourquoi justement dans la maladie d'Alzheimer, où on a l'impression que la mémoire, comme un puzzle, commence à disparaître. Je ne pense pas que la mémoire puisse disparaître. Je pense que le problème, c'est le pont entre ce puzzle qui reste dans sa totalité et nous. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des moments dans notre vie qui ont été si forts, soit dans la douleur, soit dans le bonheur, que ce pont s'effrite et qu'on ne veut pas revenir en arrière chercher des souvenirs. C'est comme si c'était des trous noirs. Et c'est peut-être ça le secret de la maladie d'Alzheimer.
Docteur Francis Huster est
avec Allez, nous. On retourne sur la facture.
Attention, parce que Molière n'aimait pas les docteurs.
C'est vrai. Et Clara Dupont-Monod, vous êtes partie de l'ouvrage.
De l'actualité, bien sûr, oui. C'est votre livre, Francis Huster.
C'est mon préféré, Le Lien.
Voilà, vous allez voir, parce que le titre semble avoir presque été soufflé un peu par Daniel Mermet. N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, lâchez rien, Daniel. Alors, c'est un livre en colère, un sentiment que la littérature connaît bien et qu'elle accueille volontiers. Alors attention, on parle de littérature qui aime les colères brutes, sincères, splendides, et donc rien à voir avec l'éructation, avec l'aboiement moralisant, avec le discours de procureur. Je suis désolée, mais rien à voir avec vous, Guillaume Meurice, il faudra vous y faire. Non, là nous parlons de la colère de Molière, que vous suivez, Francis Huster, tout au long de ce livre. Je cite, « Molière qui passa sa vie en rébellion contre les pouvoirs, les tyrans et les dévots ». Il était toujours en colère, Molière, vous êtes d'accord avec ça?
Une colère saine, parce que c'est une colère qui va vers le peuple, justement, et pas vers les élites.
Et c'était aussi la colère de Émile Zola dans J'accuse, oui, en 1898. C'était, c'est pas même. Loin de la même. Un peu celle de Flaubert, alors lui qui est né furieux, de toute façon.
Daphne Calcrotte aussi, hein. Taisez-vous.
Vous qualifiez cette colère de chaude, c'est le mot que vous employez. Et surtout, une colère qui est verbalisée. Et c'est là où je voudrais me déplacer un tout petit peu et arriver sur les colères qui ne sont pas verbalisées, sur les colères qui stagnent au niveau du ventre, au niveau du cœur, parce qu'elles ne sortent pas. Et c'est notamment le cas de Benjamin. C'est le héros d'un roman qui vient de sortir, que j'ai choisi pour vous, Francis Huster, vous repartirez avec ce roman, qui s'appelle « Summer » de Monica Sabolo. Le héros s'appelle donc Benjamin. Alors, à sa décharge, il a de quoi être en colère, surtout depuis un soir très précis où ses parents ont donné une fête au bord d'un lac dans la grande propriété familiale suisse. Et ce soir-là, les gens sont beaux, les conversations sont exquises. Et puis surtout, il y a Summer. C'est le prénom de la sœur de Benjamin. Tout le monde regarde Summer. C'est une espèce de liane complètement sublime. Je cite, « Ma sœur ressemblait pour de vrai à une reine de beauté de feuilleton américain. Ses filles saines, aux jambes élastiques, avec des dents blanches irréelles, et dans leurs yeux, une lueur insaisissable évoquant le chagrin ou le mal. » Vizorek, voilà, les deux mains sur le bureau et pas vers votre autre jambe. Je vous remercie. Sauf qu'au cours de cette soirée, Summer, elle, disparaît. Les parents s'affolent, les amis s'alarment, la police débarque. Ce sera le fait divers qui agitera le petit monde fortuné. Summer reste introuvable. Et pendant les 24 années qui suivent, Benjamin coule, vaguement conscient qu'on ne lui a pas tout dit et furieux d'être tenu à l'écart. Parce que sa colère, elle se nourrit de silence. Elle pousse sur le vide qui succède aux questions, à savoir où est passé Summer, évidemment, mais aussi que savaient les parents et que cache la police. À partir du moment où le langage ne donne pas forme à la colère, en fait, c'est le corps qui prend le relais. Et peut-être vous devez vaguement savoir ça, Francis Huster, pour avoir fait de votre vie du théâtre, justement. Mais Benjamin, du coup, est parcouru de tics, il est en proie à des crises de panique. Alors évidemment, du coup, il ne dit pas complètement non si la drogue passe par là parce qu'elle le soulage. En tout cas, il y a une certitude qui le maintient, assez perverse. S'il parle, je cite, « Cela aurait été briser le pacte qui nous tient tous debout. Toutes les choses dont on ne parle pas n'existent pas. » Donc, s'il ne dit pas sa colère, elle n'existe pas. Évidemment, erreur fatale, il mettra 24 ans avant de s'en rendre compte. Mais de ce côté-là, Benjamin est l'anti-Molière, chez qui, vous nous l'apprenez, Francis, la colère précède l'action, oui. Alors que chez Benjamin, elle est une force asphyxiante. Un seul antidote existe contre ce poison, il s'appelle la vérité. Oui. Benjamin devra oser la vérité, c'est le titre de votre premier chapitre, oui. D'ailleurs, oser oui. La vérité. Il faut beaucoup plus de courage qu'on ne pense pour oser la vérité. Et du coup, Benjamin devra reprendre le cours de cette nuit où Summer a disparu et se poser cette question magnifique, je cite, « Où étais-je cette nuit-là? Où étais-je toute ma vie ?» Je vous redonne les références. Summer de Monica Sabolo est paru chez Lattès.
Merci Clara Dupont-Mono. Et le livre de Francis Huster.
Ah, s'appelle... bien sûr, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, paru au Cherche Midi.
Voilà. Francis Huster, on va. Je voulais vous demander la couverture de Marianne
en parlant
de
colère. Parlant de colère. Après l'interview fleuve d'Emmanuel Macron, et bien dans le point, l'interview estuaire de Jean-Luc Mélenchon.
C'est sa réponse.
Demain dans Marianne.
Demain dans Marianne. Merci. Clara, voici ce troisième sujet, Francis Huster. Quand le théâtre de la Poudrerie se produit chez vous, c'est non seulement qu'il est dans votre ville, mais dans votre salon. En Seine-Saint-Denis, 85% de la population ne va jamais au théâtre, alors des comédiens professionnels viennent chez eux et interprètent des textes inspirés de témoignages des habitants. Écoutez, ça c'est déjà fait en Belgique, c'était pas vraiment un succès.
C'est un pic, c'est un pacte, que dis-je? C'est une pleine insulte. Vous aurez aisément reconnu les célèbres vers que Jean-Baptiste Molière écrivit au début du siècle. Pour se relaxer, quoi de plus enrichissant que d'assister à la représentation d'une bonne pièce de théâtre jouée par des acteurs en chairs et en os.
C'est un programme court qui avait cours sur la RTBF. Voilà pour cet article paru dans La Croix cette semaine, intitulé « En Seine-Saint-Denis, le théâtre s'invite à la maison ». Je vous lis un bref passage pour vous faire une idée. Les habitants invitent leurs voisins, les amis, la famille. Toutes les chaises de la maison ont été rassemblées et disposées côte à côte. Le décor a été monté devant le buffet massif en fermant les verres à liqueur. Et l'une des spectatrices déclare « Je n'ai jamais vu un spectacle d'aussi près ». Les comédiennes aussi disent « J'ai jamais vu les spectateurs d'aussi près ». Qu'est-ce que vous inspire ce dispositif, ce descriptif d'aller paf dans le salon des gens qui n'ont jamais l'occasion?
Je trouve ça extraordinaire. Vraiment. C'est une initiative que je soutiens mais à 100%. Parce qu'en plus, le sens même du théâtre, et on parle toujours du dédoublement de l'acteur, il n'y a pas de dédoublement de l'acteur. Il y a une femme, un homme, un enfant, un adolescent face à des êtres qui sont comme lui et qui peuvent, grâce à lui, eux, interpréter les rôles. Nous, on ne joue pas Hamlet ou Cyrano. C'est le public qui joue Hamlet et Cyrano. Nous, on est comme un gant et on laisse un peu comme dans un ciel les nuages du texte parvenir jusqu'aux gens. Mais si vous, dans la salle, mais oui, vous n'interprétez pas. C'est exactement la même chose pour la musique.
On peut presque toucher les comédiens et ils disent parfois le salon chez les gens est fait de telle sorte qu'il y a un miroir et c'était troublant, très troublant parce qu'on se voit pour la première fois dans le miroir jouer avec des gens qui sont tout près.
Bah justement, c'est une traversée du miroir de faire ça. Non, mais bah, chapeau.
Et donc chapeau aux comédiens aussi parce que les conditions sont pas évidentes. En tout cas, ça s'appelle le théâtre de la Poudrerie.
Sont subventionnés ces gens?
Effectivement, c'est un projet qui tient par le financement public, principalement de la ville de Sevran et aussi d'une structure intercommunale.
Chapeau.
Donc voilà comment l'argent public bien distribué peut faire des miracles.
C'est autre chose que le beach volley sur les gens.
Francis Huster.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre, qu'il ne connaît pas. Le rôle d'Emmanuel Macron va vous tomber entre les mains et je me suis un petit peu inspiré d'un texte qui va vous parler parce qu'il revient de Saint-Martin. Et comment ça s'est passé là-bas où il a été relativement héroïque? Conférence de presse du retour d'Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous revenez de Saint-Martin. Comment s'est déroulé le voyage?
Nous partîmes 500, mais par un pont renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient le courage.
Bonjour. Raquel Garrido pour les Terriens du Dimanche. Monsieur le Président, alors vous avez annoncé avoir dormi sur un lit de camp, vous vous êtes lavé au seau d'eau pour faire comme les sinistrés. Vous ne trouvez pas que cette mise en scène est un petit peu indécente?
Sa mère était la couche, à l'éponge nous frottâmes le corps de Jupiter. En repensant au drame, si dans un 5 étoiles je m'étais détendu, la presse en en embuscade m'aurait bien descendu.
Monsieur le Président, la prochaine fois que vous allez visiter une usine, vous allez donc visser des boulons ?
Je visserai le jour, je visserai la nuit, des boulons de toute taille, des grands et des petits. J'y mettrai tout mon corps, j'y mettrai toute ma tête, et s'il le faut, j'irai conduire le transpalette.
Monsieur le Président, on vous reproche de ne pas vous être préparé suffisamment à cette crise.
J'avoue, je le confesse, l'ouragan fut malin, il m'a rempli les yeux de son perlimpinpin. J'attendais des tourments, mais d'une autre marée, j'attendais Mélenchon et toute la CGT.
Vos adversaires vous accusent d'être inexpérimenté et déconnecté des réalités. Que leur répondez-vous ?
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.
Et que pensez-vous de l'attribution des JO à Paris, monsieur ?
Orage, désespoir, Hidalgo ennemi, ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir dans de lauriers ?
Monsieur le Président, que peut-on attendre de la suite de votre quinquennat ?
Le meilleur, avec moi, la tête sur mon épaule, vous oublierez Chirac, vous oublierez De Gaulle. Et dans 100 ans encore, on vous dira Macron, c'est l'homme qui prit la France après Napoléon.
Monsieur le Président, avez-vous un message pour la jeunesse française ?
Va, vole et disrupte.
Et pour le MEDEF ?
Va, je ne te hais point.
Chapeau. Bravo, Francis Sister. Et merci.
Merci à vous.
Merci à Antoine Asdé et à Alex Vizorek.
Voilà, on avait bien bossé, on savait qu'on avait un bon acteur. Alors, on ne peut pas lui donner un mauvais texte.
Pour un très beau texte.
Oui, parce que Gamelon hier, c'était pas aussi bien, j'ai l'impression.
Francis Sister, votre livre est disponible en librairie. Il est plein à la fois de sagesse et de colère. N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien au Cherche Midi. Je rappelle aussi que vous êtes toujours en tournée avec À droite, à gauche de Laurent Ruquier, avec Régis Laspalès. En novembre, vous serez à Nantes, Dijon, Toulon. En décembre, à Rennes, Saint-Étienne. Et le 25 janvier, à Lille. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir. On va se retrouver demain en compagnie de Fanny Cottençon. Et voici le mot de la fin pour Fabienne Sintès, qui nous succède ici et dont le téléphone sonne sera consacré aux Jeux Olympiques.
Et tu trouves pas qu'on a assez d'emmerdements comme ça, non ?